J'ai toujours admiré le travail d'Inès Lairon, cette journaliste de radio, indépendante et donc précaire, qui a fait le choix courageux de tout quitter pour enquêter sur le système productiviste agricole breton. Partie pour quelques semaines, elle vit désormais depuis 9 ans dans cette région.
Quand j'arrive en Bretagne, je suis sidérée par la façon dont la parole est emmurée, par le silence. Je vais dans des fermes et clairement, on me dit « mais dégage, dégage ou j'appelle la police ». Enfin, je me fais jeter.
En 2015, quand elle arrive, les scientifiques ont démontré depuis déjà des décennies le lien entre la hausse massive des déjections animales, comme des engrais chimiques, et la prolifération des algues vertes. Des algues qui, en se décomposant, émettent un gaz qui tue aussi rapidement que le cyanure.
Il y avait comme un énorme déni de la société bretonne, qui est-ce qu'on reconnaît quelques morts des algues vertes, mais dans ces cas-là, ça fragilise en fait tout notre emploi, tout notre tissu industriel, ou bien est-ce qu'on ferme les yeux sur ces morts et ces problèmes de santé, et comme ça, on préserve en fait ce qui nous fait vivre.
Dans le cadre de la 33e édition du FIGRA, Festival international du grand reportage et du documentaire de société qui s'est déroulé à Douai du 30 mars au 4 avril, le film documentaire de Caroline Fontaine, Dictionnaire amoureux du journalisme, a été proposé dans la section Autrement vu. Vous venez d'entendre un extrait d'une enquête journalistique autour du dossier des algues vertes menée par la journaliste Inès Lairon, qui sera également évoqué lors de l'interview. Ce documentaire se plonge au cœur du journalisme par le biais d'un abécédaire amoureux de la liberté d'informer de la presse internationale, nationale, mais aussi locale et de proximité. Et avant de retrouver la réalisatrice en interview, on écoute d'abord les réactions de lycéens présents lors de cette projection.
J'ai bien aimé ce film parce que on voit différents journalistes et on en apprend un peu plus sur le métier et sur les différents journalistes, comment ils ressentent les choses. Et moi, grâce à ce film, j'ai pu apprendre que le métier de journaliste, c'est vraiment un métier important et que ça permet la liberté de presse, la liberté d'expression, tout ça.
Alors toi, tu t'informes comment ?
Ça dépend, sur les réseaux sociaux, comme par exemple sur deux comptes TikTok comme Brut et Hugo Décrypte. Après, il y a aussi l'émission Quotidien, le dimanche soir, il me semble.
C'était un très bon documentaire qui nous a permis d'en apprendre plus sur le métier du journalisme et tout ça, avec les différents milieux, les reportages et tout ça. Et du coup, j'ai bien aimé ce côté reportage à l'étranger, tout ça, avec la guerre et tout. Et c'est bien d'en apprendre plus sur ça, voilà.
Il y a une scène marquante qui t'a interpellé à un moment donné dans le film ou...
Oui, avec la guerre, du coup.
Oui, parce qu'elle parle de poules, de fuck poules, hein, puisque c'est la presse qui est bâillonnée, qui doit pas filmer ça, qui doit pas dire ça, etc., notamment aux États-Unis avec la guerre en Irak.
Oui.
C'était un film intéressant. On découvre des facettes qu'on n'imaginait pas du métier de journaliste. Et aussi par la parité homme-femme, qui était un début où on voyait plus d'hommes et à la fin plus de femmes.
Il y a une scène qui t'a marqué particulièrement ou un fait dans le film
Les deux journalistes qui sautent de l'avion pour avoir le scoop sur le bateau. Parce qu'ils sont prêts à beaucoup de choses pour pouvoir mener leur enquête.
Tu t'informes comment toi ?
Sur... les chaînes télévisées en continu, là, du coup, comme vous avez dit. Un peu sur les réseaux aussi. Et à la radio, un petit peu.
On retrouve à présent la réalisatrice Caroline Fontaine pour évoquer quelques temps forts de ce film ainsi que la condition du journalisme d'hier et évidemment d'aujourd'hui. Entretien illustré par quelques extraits du film.
Face à l'omerta, l'enquête d'Inès Lairon n'avance pas. Mais cette journaliste est aussi patiente qu'obstinée.
Au bout de quelques mois, je me dis, soit je repars, soit je reste et j'arrête d'essayer de venir avec un micro ou d'essayer de prendre des notes. Je vais donner des coups de main dans les fermes. Et aussi, je vais beaucoup travailler dans les cafés de village avec mon ordinateur. Petit à petit, les gens s'habituent à ma présence et j'entends des bribes de conversations très intéressantes et puis ils vont m'interpeller. Et en fait, à partir de là, ça va très vite.
Et effectivement, les résultats sont très clairs. Les doses de gaz sur les algues en décomposition sont le double des doses mortelles.
Quand je diffuse le premier témoignage anonyme, j'ai des gens qui vont venir me voir et me dire « Mais en fait, ce que j'ai entendu, mais moi je l'ai vécu aussi et j'ai des choses à ajouter. »
Mais en tout cas, je suis sûr que M. Morfa se transportait des algues un peu avant de mourir. Et j'ai senti, dès que j'ai informé le préfet et le procureur de cette situation, j'ai senti une certaine gêne. À un moment donné, j'ai senti qu'on ne voulait pas faire ce lien.
Caroline Fontaine, bonjour.
Bonjour.
Donc là, vous venez de présenter votre film, donc Dictionnaire amoureux du journalisme, dans le cadre de la 33e édition du FIGRA. Il y avait du public, il y avait aussi beaucoup de jeunes. Alors comment, pour vous, ça s'est passé avec ces jeunes ?
Moi, j'ai trouvé ça génial, parce qu'ils ont mis un peu de temps à poser des questions, mais quand ils s'y sont mis, c'était super. Je me suis dit, j'ai vraiment pensé ce film comme quelque chose pour montrer à quel point c'est important la presse, surtout pour les jeunes, parce que ma génération, je crois qu'on le sait, mais les jeunes moins, ils sont quand même un peu inondés de fake news sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'étais hyper touchée de voir tous ces jeunes qui l'avaient regardé, qui posaient des questions, et parfois des questions très concrètes, d'autres fois des questions un peu plus générales, et j'ai trouvé ça génial, j'étais très émue.
Il y a pas mal de choses, c'est très fourni votre documentaire, donc il y a des images d'archives, mais il y a aussi des interviews avec pas mal de journalistes, et moi j'ai retenu une phrase, évidemment qui est importante aussi, on évoque les poules, ce qui est né après, les fuck poules, donc refuser la manipulation et continuer d'informer de façon indépendante, notamment quand il y a eu le conflit entre les États-Unis et l'Irak.
Oui, en fait, cette première guerre du Golfe, elle marque vraiment un tournant, parce que c'est la première fois qu'on met de manière aussi industrielle les poules, c'est-à-dire que les journalistes vont être embarqués avec les militaires et les militaires ne vont leur montrer que ce qu'ils veulent bien leur montrer, c'est-à-dire que ce qui les avantage. Et tout ce qui se passe sur le front est hors caméra. Et donc c'est vraiment la première fois qu'il y a une guerre qu'on ne voit pas et qui est présentée à la télévision comme une guerre incroyable. C'est là qu'on invente les termes de dommages collatéraux pour parler des victimes civiles. Les frappes sont dites chirurgicales. Enfin, il y a tout un vocabulaire qui accompagne cette guerre. Et face à ça, il y a un groupe d'abord de photographes et puis après ça va s'étendre, français, qui disent « non, en fait, ça c'est pas possible, on ne va pas accepter les poules » et ils créent « fuck de poules ». Qui veut dire donc allez vous faire foutre le poule. et eux, ils vont s'habiller comme des militaires, ils vont se déguiser en militaires pour pouvoir passer les nombreux barrages et ils vont réussir à documenter cette guerre et leur travail multiple. Hein, ils sont très nombreux, à la fin ils sont assez nombreux, plusieurs dizaines, va permettre probablement de participer à l'arrêt de ce conflit. Et donc moi je trouve que c'est une histoire magnifique parce qu'elle montre qu'il y a toujours des voies, des passages et que la com et la communication est de plus en plus présente. C'est une arme de destruction massive. Ils ont des moyens que nous, journalistes, on n'a pas. Mais nous, on a notre collectif, notre ingéniosité. Et je trouve que c'est admirablement démontré par ces camarades de fuck de poule.
Et puis il y a aussi ce fameux dossier des algues vertes. Donc vous faites un portrait un peu de la journaliste de France Culture, Inès Leroux. Et qui a eu du mal aussi à traiter le sujet finalement quand elle était sur le terrain.
Oui, Inès, c'est vraiment un cas exemplaire. Alors, c'est un cas unique. Hein. C'est vraiment dans mon panthéon, elle est numéro un. Bref, elle est très haut. Elle arrive, elle, nous, moi, dans ma pratique de journaliste, au maximum, j'étais une semaine, 10 jours sur le terrain, quand j'avais de la chance pour traiter un sujet. Mais la plupart du temps, on arrive, on passe 3-4 jours et hop. Et elle travaille pas du tout comme ça. Elle prend le temps. Donc, elle est partie en Bretagne, elle s'y est installée. D'abord quelques semaines, parce qu'elle voulait documenter les ravages de l'agro-industrie bretonne qui n'était pas du tout documenté. C'était vraiment complètement tabou parce que ça fait vivre toute la Bretagne. Chacun dans sa famille a quelqu'un qui travaille là-bas ou lui-même il travaille, etc. Et du coup, elle, au lieu de passer quelques semaines, elle a mis 2 ou 3 ans à faire son enquête en vivant avec les gens. Donc elle travaillait pour France Culture à l'époque, elle faisait ses émissions de radio, puis après elle recroisait les gens. Donc elle a mis en place vraiment une façon de travailler qui est admirable au contact de ses sources. Et elle a réussi à changer vraiment désormais les algues vertes, c'est quelque chose qui est reconnu en lien avec l'agriculture intensive. Et donc elle a gagné cette première bataille qui est de vraiment rompre cette omerta qu'il y avait autour. Moi je trouve ça incroyable, mais pour ça elle a sacrifié sa vie parisienne, son confort pour aller s'installer. Et donc elle montrait ce que sont capables de faire des journalistes pour nous informer sur des sujets qui ne sont pas glamour. Parce qu'en plus, les journaux n'en voulaient pas trop, parce que la pollution, c'est pas marrant, etc., etc. Et donc elle est vraiment admirable.
Et est-ce qu'elle a été en lien avec d'autres journalistes de la région, justement, pour pouvoir travailler qui relaient aussi l'information ?
Alors carrément, elle s'est beaucoup appuyée sur des localiers qui ne pouvaient pas raconter parce que l'agro-industrie est un des annonceurs principaux de ces journaux. Et donc elle s'est beaucoup appuyée sur eux, notamment sur une journaliste, Morgane Large, qui elle a essayé aussi de documenter les ravages de l'agro-industrie et qui a failli mourir parce que les roues de sa voiture ont été déboulonnées à plusieurs reprises. Donc elle aurait pu perdre sa roue en conduisant. Et d'ailleurs, au terme de Inès Leroy, elle débarque du coup dans une région qui n'est pas la sienne, où elle n'a pas tous ses liens avec l'agro-industrie. Et puis elle arrive un peu ingénue et elle découvre l'omerta incroyable. Ça lui semble, je parle en son nom, mais ça lui semble vraiment impossible. Et donc, en fait, son regard à elle a permis au regard des autres journalistes de bouger. Et beaucoup se sont dit, mais en fait, on ne s'en rendait pas compte, mais on s'auto-censurait. Il y a plein de sujets qui nous étaient interdits. Et donc, ils ont créé ensemble, ils ont démissionné de leurs journaux et ensemble, ils ont créé Splan, qui veut dire clair, transparent, je crois, en breton, et qui est un journal extraordinaire, indépendant, qui privilégie le temps long sur des enquêtes difficiles, qui travaille de manière collective pour plus être ciblé. Et donc, elle a renouvelé en plus la presse en Bretagne. C'est extraordinaire. C'est une histoire, une histoire exemplaire. Ouais.
Et au bout de la deuxième année sur place, je croule sous les témoignages, sous les alertes, sous les documents.
En ce moment, je peux pas trop dire où je suis. Vous donnez nos noms, vous donnez nos postes exacts, ça pourrait nous cibler plus facilement. Et après, on risque des sanctions, nous.
C'était tellement dangereux pour eux de me parler, ils pouvaient tellement perdre leur emploi à tout moment, que avant de diffuser une interview, j'allais leur faire réécouter, ce qui se fait très peu, en fait, dans le journalisme. Et c'est vraiment dans ce partenariat de travail qu'on a mis au jour tous ces mécanismes de censure, d'autocensure, de pression, de menace qui s'exercent en fait sur la société bretonne. Quand mon travail va être plus connu en Bretagne, j'ai des témoins qui reçoivent des menaces de mort. Une journaliste de la presse locale avec qui je collabore, Morgane Large, qui a beaucoup témoigné dans mon travail, va se faire déboulonner ses roues de voiture 3 années de suite. Elle est à 2 doigts de perdre sa roue en conduisant, quoi. C'est vraiment une atteinte à son intégrité physique grave. Et c'est aussi en fait un signal qui est lancé à tous les journalistes, celui de dire si vous attaquez à ces sujets, voilà ce que vous risquez.
Vous mettez aussi l'accent sur des séquences avec la presse locale. Et moi j'ai retenu une phrase, hein, on est là pour emmerder le monde.
Oui, c'est vrai, le journalisme, c'est un journalisme normalement d'opposition. C'est ce que raconte Laurent Valdiguez, qui est un localier du Parisien. Et eux, leur but, c'est de trouver, donc plutôt, il le dit, plutôt de droite dans les mairies de gauche et de gauche dans les mairies de droite. Leur but, c'est de dévoiler ce qui est en train de se passer dans ces municipalités. C'est un journaliste de proximité. Et c'est comme ça qu'ils trouvent leurs sources. Ils sont sur le terrain jour et nuit, tout le temps au contact des gens. Et puis, à force, on commence à leur faire confiance, etc., etc. Et donc, ça aussi, c'est un journalisme assez exemplaire, je trouve. Parce que, et en effet, moi, j'aime l'idée de se mettre dans cette posture d'emmerder le monde. parce que c'est ça qu'il faut. Il faut toujours interroger, toujours se dire est-ce que ça c'est vrai, est-ce que on est. Et quand on est dans cette posture, ben au fond on a un petit côté un peu à réfléchir tout ce qu'on nous dit, est-ce que c'est vrai, etc., etc. Et donc moi je trouve ça assez intéressant et puis ça m'a. Ouais. Donc,
Il y a aussi ce journaliste de Libération hein, qui avait l'habitude d'accompagner les politiques, etc. Et à un moment donné, qui change complètement de cap. D'ailleurs, on l'a senti très ému derrière la caméra à un moment donné. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cette séquence ?
Oui, Rachid Lahiresh, il vient de banlieue parisienne. Donc d'un milieu qui n'est pas le milieu de la plupart des journalistes. Et il commence d'ailleurs à l'accueil de Libération. Il est hôte de sécurité. Et il a la tchatch, etc. Il adore le rap. Et donc au début, certains mecs de Libé le prennent un peu sous son aile et lui disent « écris sur tes thèmes à toi d'arabe de banlieue. » Donc le rap, le foot. Et puis à un moment, ils lui disent « en fait non, il faut… » Et donc il quitte son poste d'agent de sécurité. Et il devient pigiste pour Libé et on le met en charge de la gauche. Et donc il est projeté dans un univers à l'opposé du sien. Et il raconte à quel point il a adoré ça. C'est vrai, déjeuner à l'Élysée. Et puis ensuite, il raconte aussi, il a fait un livre qui est magnifique là-dessus, qui s'appelle, je crois, « Il n'y a que moi que ça choque », et où il raconte en fait petit à petit l'entre-soi qui se crée, la connivence, et qu'au fond, il raconte un peu en fait, des choses qui sont peu importantes, les alliances entre politiques, les bisbilles entre eux, etc. Mais ils ne font plus de politique, c'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent plus au quotidien des gens. Ce sont des termes, le SMIC, le RSA, mais en fait il n'y a plus de réalité derrière, et qu'à un moment il se dit mais c'est pas possible, moi d'autant plus là d'où je viens, je suis complètement déconnectée, c'est taré, et il décide de tout quitter pour devenir un reporter société. Et c'est vrai, je me souviens quand on a fait cette interview, le chef op Vincent Even, il me dit tu poses trop de questions, laisse-les un peu respirer. Et Rachid, je lui ai posé une question et il a fini sa réponse 45 minutes plus tard, et on avait ri, on avait pleuré, parce que cette séquence elle dure plus longtemps, et on était, le chef op et moi, en larmes, et c'était magnifique, franchement c'est incroyable. Et c'est vrai que c'est un journaliste tellement passionné.
C'est ça aussi surtout qui fait le thème de votre documentaire, c'est le journaliste passionné. Et puis les enquêtes de Philippe Pujol aussi, qui travaille à la Marseillaise à Marseille, et qui lui a des techniques un peu particulières.
Oui, lui, il dit qu'il travaille comme un éthologue, c'est-à-dire c'est un spécialiste, il a fait des études de biologie, donc c'est un spécialiste du comportement animal, et donc y compris de l'être humain. Et donc lui, il travaille vraiment, c'est un journaliste de proximité, il a passé des années en banlieue. Ce qu'il a permis de démontrer, et ce que là je le dis et tout le monde va se dire mais non, c'est pas vrai, mais si, lui, il a vraiment démontré que les dealers étaient des esclaves exploités, contrairement à l'image qu'on en a de jeunes qui gagnent énormément d'argent en vendant de la drogue. En fait, seuls les têtes de réseau sont très riches, mais les dizaines de milliers de petits dealers, eux, ils finissent souvent très mal, exploités. Et donc ça, c'est son grand travail. Ça, c'est ça qu'il a fait pendant des années et des années. Il a enquêté là-dessus.
Ondine Millau, parce que vous donnez aussi la place aux femmes, justement, et ça c'est bien, dans le journalisme et dans votre documentaire, donc qui est évidemment à Libération, et qui se pose la question de ce qu'elle a envie de savoir, et c'est un peu le rôle un peu des journalistes, de ce qu'on peut donner évidemment à entendre ou à lire aux gens, mais aussi nous, en tant que journalistes, comment se questionner aussi sur « j'ai envie de savoir ce que vous racontez ».
Oui, moi je pense que de toute façon, on est des êtres humains, donc sujet parle de ce qui nous intéresse nous, ou de ce qui nous questionne, ou donc on travaille souvent sur des sujets, et donc c'est vrai qu'Ondine Millau, elle est un peu obsédée par la violence, et elle a toujours voulu essayer de comprendre pourquoi la société était violente, pourquoi des êtres sont violents. Et donc dès le début des années 2000, elle s'est intéressée aux violences faites aux femmes et aux enfants, qui étaient des sujets absolument très très peu couverts par la presse. D'ailleurs, elle raconte qu'un de ses chefs lui dit à l'époque, quand elle fait un article sur un pédophile, la pédophilie, ça doit rester dans la famille, c'est de la vie privée, ce qui est complètement fou. Et donc Ondine Millau, elle a permis vraiment de changer notre regard sur ce qu'on appelait à l'époque, je le rappelle, des crimes passionnels, le terme a été trouvé, donc ce sont des féminicides et pas du tout des crimes passionnels. Et d'ailleurs, quand on trouve un mot, en général, ça veut dire que le problème est identifié. Et là, il l'a été. Même si il y en a encore, je crois, un tous les deux jours, et que je n'ai pas l'impression que ça soit... Je crois que c'est Virginie Despentes dans Cher Connard qui dit si c'était un salarié qui tuait son patron tous les deux jours, le problème serait pris pas du tout à la légère, comme si on remplaçait femme par... et mari par ouvrier et patron. Et c'est vrai que ça montre à quel point... bref, c'est sous-traité, c'est complètement fou.
Il y a le journalisme de l'intime également, avec l'évocation de Tinder. Alors ça, c'était une séquence aussi particulière.
Oui, alors en fait, c'est intéressant parce que Judith Duportail, elle est une grande consommatrice de Tinder, ça rejoint ça, et qu'elle a beaucoup documenté. Et un jour, elle réalise, au détour d'un article américain, que Tinder a un Elo score, c'est-à-dire un score, il donne à chaque personne un score d'attractivité. Et donc, elle se lance dans une enquête pour comprendre son score d'attractivité, comment il est fabriqué, qu'est-ce qui... Et là, elle découvre qu'en fait, Tinder a carrément codé le patriarcat, parce qu'il faut en sorte que les femmes rencontrent des hommes qu'elles vont toujours regarder d'en bas, enfin, qui seront toujours, entre guillemets, supérieurs à elles, parce que soit ils seront plus riches, soit ils auront fait de plus longues études, soit ils seront plus âgés. Et que les hommes, du coup, ont des points bonus pour avoir fait des longues études ou avoir un bon salaire, alors que les femmes, elles ont des points malus, pour qu'on associe toujours des femmes avec un homme qui a soit un meilleur salaire, donc comme j'ai dit, soit il est plus âgé, soit il a fait de plus longues études. Et du coup, en fait, elle a démontré que l'intime, mais ça, les féministes dans les années 60, elles le disaient déjà, l'intime est absolument politique. Et qu'il y a Tinder qui faisait croire qu'on allait pouvoir rencontrer des gens différents, que ça allait être incroyable, etc. En fait, pas du tout. Il reproduit ce qu'on vit déjà dans nos vies hors Tinder.
Et puis il y a ce journaliste aussi, grand reporter, hein, qui... Alors la phrase que j'ai notée, qui était assez intéressante, il dit qu'il aime... il déteste les guerres, mais il aime les couvrir. Ça, c'est intéressant.
Ouais, alors Michel, à mon avis, pour plusieurs raisons. D'abord, ce qu'il dit, c'est qu'il aime les gens dans la guerre.
Oui, c'est ça. Oui.
Parce que ça révèle, en fait, les gens sont différents. Peut-être quelqu'un qu'on ne remarque pas se révèle être un héros, et puis quelqu'un qu'on pense extraordinaire se révèle le plus grand des salauds. Donc lui, il dit ça, et puis ça crée des amitiés très fortes. Ça crée... Il retourne les voir, il a gardé avec ses sources, hein, pas seulement entre confrères, des liens très forts. Donc lui, il aime ça. Et puis après, il a aussi une petite addiction à l'adrénaline que génère le conflit. Il le dit rapidement à un moment. Ça permet de ne pas se poser la question pourquoi on est devenu addict à cette violence. Et c'est vrai qu'il y a aussi tout ce volet-là qui est que... Ça, c'est Roger Louis, un vieux journaliste, qui le dit, mais en fait, être journaliste, c'est vivre d'autres vies que la sienne, et puis c'est avoir une vie pas comme les autres. Et ça, il y a probablement aussi cette addiction à la vie pas comme les autres.
On va revenir un peu sur les femmes dans le journalisme, et vous évoquez dans ce documentaire la fronde, donc, et puis un portrait aussi de Dominique Torres qui a failli, comme elle le dit dans le reportage, passer la ligne rouge.
Alors elle n'a pas failli, elle l'a passée. Parce que moi, quand je commence, j'ai plein d'idéaux sur le métier, puis beaucoup de règles déontologiques. Et donc, à mes yeux, si on traite Dominique Torres, elle commence à travailler sur l'esclavage. Elle découvre que l'esclavage existe aussi en France, que ça, elle l'a appelé. Et donc elle documente, et puis rien ne se passe. Et donc elle se dit, mais qu'est-ce que je fais? Et du coup, elle a créé le comité contre l'esclavage moderne. Et pour moi, c'est pas possible. On peut pas être journaliste et à la tête d'une association, quelle qu'elle soit. Et donc, quand je la rencontre sur un sujet d'esclavage en France, je me dis, pour moi, elle contrevient à toutes les règles. Et en fait, je lui dois énormément, elle m'a vraiment beaucoup appris. En fait, non, en fait, on a un devoir d'engagement. Et c'est trop facile de se dire, moi, je documente et je gère pas les problèmes. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, la manière dont elle a pris ça à bras-le-corps. Et après, on est restés amis. Et chaque fois que je faisais un article sur des jeunes en difficulté, sur des SDF, tout le temps, elle m'appelait après. Oh, j'ai lu ton article, mon Dieu, c'est horrible. Et elle avait fait la tournée des restos près de chez elle. Elle avait trouvé du boulot. Enfin, elle est vraiment extraordinaire. Et donc, en fait, non. Et d'ailleurs, il y a une tradition du journalisme engagé, Camus notamment, contre le colonialisme, etc. Et du coup, maintenant, c'est très ancré en moi, grâce à Dominique, il faut s'engager.
D'ailleurs, il y a une scène très émouvante, hein, où elle sauve une érythréenne, hein, qui est cloîtrée chez elle. Et c'est une scène particulièrement émouvante. Et puis, donc la fronde.
Oui, la fronde, moi j'ai découvert ça dans ma recherche pour ce film. J'étais sans imaginer que c'était possible qu'à la fin du 19e siècle, il y a un journal fait que par des femmes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, c'est un journal, tout le monde se moque d'elle. C'est Marguerite Dumas, j'ai oublié, là j'ai un trou sur son nom, qui lance ça, c'est que des femmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, c'est un peu l'époque de l'affaire Dreyfus, c'est vraiment un journaliste d'opinion. Donc les journalistes sont souvent aussi politiques, enfin, etc. Et elles vont sur le terrain et elles revendiquent de s'intéresser à ceux qui n'intéressent personne, les sans-voix, alors les femmes évidemment, mais aussi les ouvriers. De cette fronde vont naître des plumes très célèbres, hein, notamment André Violis, mais Colette, elles sont plusieurs. Il y en a une autre qui est Séverine, qui est extraordinaire, qui refuse la Légion d'honneur. Et donc, je trouvais ça hyper intéressant de dire, à une époque où la presse va mal, à cette fin du 19e siècle, eh ben, y a un groupe de femmes qui remet des lettres d'honneur au journalisme et qui se... contre tout le monde, parce qu'évidemment, tout le monde se moque d'elles. Et alors, leur expérience n'a pas duré très longtemps, mais ça a ouvert la voie à toutes les femmes qui ensuite ont pu être journalistes.
Les seuls soutiens que j'ai reçus, en fait, c'est le soutien des habitants ici, qui a vraiment dit « mais ce travail, c'est devenu un patrimoine pour nous ». Et ils ont financé une caisse de soutien. Elle va servir à mes témoins qui vont être attaqués, eux. Ça va par exemple servir à Morgane Larche pour qu'elle puisse se défendre en justice.
Inquiet des pressions et menaces de procès de l'agro-industrie, les médias ont été réticents à publier son enquête sur les algues vertes. Mais grâce à son adaptation au cinéma et à sa bande dessinée, Inès Leroux en a décuplé l'impact. Aujourd'hui, plus personne ne remet en cause le lien entre algues vertes et agriculture intensive.
C'était un entretien en compagnie de Caroline Fontaine, réalisatrice du film documentaire « Dictionnaire amoureux du journalisme » qui a été proposé dans la section « Autrement vu » du FIGRA, Festival international du grand reportage et du documentaire de société, et qui s'est déroulé à Douai du 30 mars au 4 avril. Reportage illustré par quelques propos recueillis auprès de lycéens pendant cette projection, ainsi que quelques extraits du film.